On s'intéresse à un sujet, donc c'est vrai, on parle très peu, les antioxydants en gynécologie obstétrique. Alors avant de vous laisser la parole, Asma, j'invite bien évidemment les auditeurs à poser leurs questions sur l'application Lux Radio.
Jamel Abastage, bonjour.
Bonjour.
Alors les femmes qui consomment pendant leur grossesse des antioxydants pourraient être protégées contre la pré-enclampsie et prévenir chez leurs futurs enfants les maladies cardiovasculaires chroniques et le diabète de type 2. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'a tenté de confirmer une équipe de chercheurs en obstétrique, épidémiologie, physiologie, nutrition, sous la direction du docteur William Fraser, directeur du département obstétrique gynécologie de la faculté de médecine, grâce à une subvention des instituts de recherche en santé du Canada. Donc, on comprend que ça se passe au Canada. Avant de vérifier ensemble cette hypothèse et revenir ensemble sur cette hypothèse, qu'est-ce que sont d'abord les antioxydants?
Voilà, c'est ça la question. C'est plutôt ça. Et leur intérêt découle sur toute la santé, non pas juste en gynécologie, mais sur toute notre santé. En fait, le corps humain, c'est quoi là? C'est des molécules. On revient à des molécules d'atomes chargées négativement avec des électrons, négativement ou positivement. Et donc, les gens connaissent les opérations d'oxydoréduction. Par analogie, je dirais la rouille. Ben, vous laissez du fer, il s'oxyde à l'air parce qu'il y a de l'oxygène. Et ben, dans notre corps aussi, les antioxydants...
Ça se passe de la même manière.
C'est de la même manière, c'est-à-dire tout ce qui contient des phénomènes d'oxydation, c'est-à-dire de fixation des transferts d'électrons. Et donc, dans le corps, on a des systèmes, ce qu'on appelle des radicaux libres, des ROS ou des RNS, des espèces réactives à l'oxygène, c'est-à-dire des molécules qui sont instables électroniquement, je dirais par rapport à une charge d'électrons, et qui donc vont se fixer sur d'autres et altérer plein de protéines, plein de choses au niveau du corps. Et donc ça, c'est les oxydants. C'est toutes les opérations d'oxydation. Et heureusement que dans le corps, il y a des systèmes de réduction, c'est-à-dire pour fixer, pour stabiliser ces radicaux libres. On les appelle ça comme ça, radicaux libres, parce qu'ils flotte donc de manière instable dans le corps, notamment dans la cellule et dans l'usine de la cellule qu'on appelle l'usine d'énergie de la cellule qu'on appelle la mitochondrie. C'est vraiment un organite cellulaire qui produit l'oxygène de la cellule et donc du corps. L'oxygène, quand on respire, c'est juste la respiration, le poumon, c'est juste apporter de l'oxygène qui par le poumon pour aller jusqu'à la cellule. C'est au niveau de la mitochondrie que la cellule utilise cet oxygène pour délivrer de l'énergie sous forme de ce qu'on appelle d'ATP. Anyway.
Donc, vraiment, on replonge dans nos cours
de chimie.
Exactement.
Juste pour simplifier, donc, il y a dans nos métabolismes, dans la production de nos cellules, la vie de nos cellules, il y a beaucoup de production de radicaux libres qui sont toxiques.
Heureusement, c'est des déchets, en fait.
C'est des déchets, oui, c'est des molécules instables. Heureusement qu'il y a des systèmes de fixation qu'on appelle les antioxydants. D'accord. Mais ces systèmes, notamment enzymatiques endogènes, je veux dire propres au corps, sont assez limités et le corps a besoin d'antioxydants naturels qui va apporter par l'alimentation. Et il y en a plein. Il y a plein de vitamines, plein de minéraux qui vont servir à fixer cela. Et donc ces radicaux libres, je citerai un exemple que les gens connaissent, l'oxygéné. Si ça améliore la cicatrisation et tout, et ben c'est en fait c'est des radicaux libres, c'est de l'eau instable, ça nettoie, c'est comme ça que ça tue les bactéries et ça améliore la cicatrisation. Il y a plein d'autres, il y a l'ion superoxyde, il y a plein. Et donc ces antioxydants vont toucher beaucoup de systèmes. Les protéines, alors ils vont toucher, très important, ils vont toucher ce qu'on appelle les acides nucléiques. C'est-à-dire les molécules qui vont aller constituer l'ADN. Et si vous dénaturez les acides nucléiques, vous dénaturez l'ADN, donc vous entraînez des mutations et vous voyez toutes les conséquences en termes de vieillissement, en termes de cancer, en termes par rapport en gynécologie de croissance du fœtus. En obstétrique, et donc notamment la pré-éclampsie. Donc il y avait cette hypothèse par une étude sur l'origine de la pré-éclampsie qui serait liée à ce qu'on appelle le stress oxydatif. Mm-hmm. Aussi en gynécologie, je dirais l'infertilité, c'est-à-dire que un stress oxydatif aigu chez l'homme ou chez la femme va entraîner des malformations des spermatozoïdes et donc une infertilité.
Alors, pour résumer, vitamine C, sélénium, coenzyme, Q10, ces noms correspondent à des antioxydants présents naturellement dans notre alimentation. Vous le disiez à l'instant, on les retrouve aussi sous forme de compléments alimentaires. Mais à quoi servent en fait ces antioxydants, spécialement en gynécologie obstétrique, parce que c'est notre sujet du jour, et lesquels de ces antioxydants sont utiles en fait en cas de grossesse?
Alors en cas de grossesse, d'abord je dirais la vitamine B9. C'est sans l'acide folique parce que c'est un coenzyme d'une enzyme assez importante, ce qu'on appelle l'homocystéine, enfin le système d'homocystéine, et donc ça diminue les malformations. Je veux dire, la prise de vitamine B9 en périconceptionnelle, c'est-à-dire dès qu'on a le désir de grossesse et surtout dans les 3 premiers mois.
On peut le prendre avant, en fait. Oui, il faut le prendre avant.
Il faut le prendre avant. Moi, je donne de la vitamine B9, l'acide folique, dès que la femme arrête sa contraception ou dès que je retire un stérilet, de telle manière à la couvrir. Cette vitamine B9, cet acide folique, va diminuer de 50% les malformations du tube neural. Elle ne va pas les arrêter, mais c'est important par rapport à ça. Pour la croissance du bébé, je vous dis par rapport à la pré-éclampsie, par rapport au retard de croissance intra-utérin. Donc il y a beaucoup de rôles de ces...
La pré-éclampsie, est-ce qu'on peut revenir justement sur... Oui, définir...
L'éclampsie, on ne le connaît pas bien. L'éclampsie, c'est une hypertension de la grossesse associée à ce qu'on appelle une protéinurie. Elle va éliminer beaucoup de protéines, donc elle va faire de la rétention. Mais la pré-éclampsie, c'est une maladie beaucoup plus complexe. C'est une vasoconstriction des vaisseaux. C'est-à-dire les vaisseaux, au lieu de se dilater et apporter beaucoup de sang au fœtus, ils vont se contracter. Ça va donner aussi d'autres radicaux libres et d'autres toxines qui vont avoir un effet délétère sur tout le corps, sur le foie, sur le cerveau, avec ce qu'on appelle la crise convulsive, avec sur le retard de croissance.
Il y a une mauvaise circulation sanguine.
C'est une vasoconstriction des vaisseaux. On pourra faire un sujet sur l'éclampsie si vous voulez. C'est une vasoconstriction des vaisseaux, mais c'est ce qu'on voit, cette hypertension avec cette atteinte rénale et une protéinurie. Mais en fait, il peut y avoir beaucoup de choses. Je vous dis, atteinte hépatique, atteinte cardiaque, atteinte du bébé, atteinte de la coagulation sanguine, avec ce qu'on appelle la CIVD, la consommation des facteurs de coagulation du sang. Et donc, on peut avoir une hémorragie, au contraire, même si c'est une coagulation. Donc, l'éclampsie, c'est quelque chose de très grave qui peut menacer la vie du bébé et de la maman. Et donc, maintenant, l'éclampsie, on n'en parle pas beaucoup par rapport aux récepteurs, au ROS et aux radicaux libres et au stress oxydatif. Mais sûrement qu'il y a un rôle du stress oxydatif dans cela. La prévention de l'éclampsie, c'est essentiellement prendre de l'aspirine éventuellement et surveiller cette grossesse. C'est vraiment de l'huile, du lait sur le feu. Une femme qui a une pré-éclampsie, c'est vraiment une grossesse
à suivre de très près.
Mais je dirais, moi, c'est plus l'acide folique en obstétrique. Et vous l'avez cité, le sélénium, le coenzyme Q10, le zinc, la vitamine E, le sélénium, c'est plus à gérer plus dans l'infertilité, tant masculine que féminine.
C'était justement ma prochaine question. Si les traitements justement antioxydants peuvent être efficaces dans les infertilités masculines.
Oui, et féminines également. Dans l'infertilité masculine, ce qui compte chez nous, dans un cadre d'infertilité, c'est le sperme du mari. Et ce sperme peut être donc altéré anormalement, soit en termes de quantité, soit en termes de fragmentation de l'ADN, c'est-à-dire que les spermatozoïdes ont beaucoup de petits débris d'ADN, et c'est favorisé par ce stress oxydatif. Et on s'aperçoit que justement, donner une alimentation riche en antioxydants va permettre de diminuer ce stress oxydatif et donc d'améliorer la capacité du sperme à féconder. Maintenant, ça dépend également de...
Alimentation riche en antioxydants, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut donner des exemples concrets?
Alors, je vais dire, mais une alimentation juste riche et variée en fruits. Fruits et légumes, éviter tout ce qui est malbouffe, éviter l'obésité, donc fruits et légumes, boire beaucoup d'eau, le thé.
Mention spéciale aux pommes, visiblement.
Les fruits en général. Les fruits, et plus ils sont colorés, plus ils sont riches en antioxydants.
D'accord.
Donc éviter la malbouffe. Je vous dis les brocolis, les choux, les fruits et les légumes en général. Éviter de manger trop gras, de manger trop...
Trop sucré,
le sucre aussi raffiné, c'est des choses qui vont faire. Mais il n'y a pas que l'alimentation qui intervient sur les antioxydants, il y a aussi l'hygiène de vie, c'est-à-dire bien dormir, Bien dormir est important pour laisser au corps le temps de se reposer et au foie de détoxifier. Donc, et si vous faites des nuits incomplètes, 5 heures, 4 heures, vous ne dormez pas bien, ça va exagérer aussi la fatigue. Bien manger, donc manger sainement, ne pas manger trop de quantité. Faire une activité physique. Se dépenser modérément et surtout la régularité. Il faut faire normalement 3 heures de sport, 1 heure et demie à 3 heures de sport par semaine. Mais il ne faut pas faire 1 heure et demie le dimanche et rien pendant tous les jours. Je préfère juste 30 minutes de marche ou prendre l'habitude de monter les escaliers, de ne pas prendre l'ascenseur, de marcher un peu en voiture, à pied, éviter de prendre la voiture. C'est bien. Donc une activité régulière. Bien dormir, manger, c'est essentiellement.
Très bien. Alors j'avais une. On parlait justement des infertilités masculines et justement l'utilité de ces traitements antioxydants. Qu'est-ce qu'on donne exactement?
Il y a plein de compléments alimentaires par rapport à ça. Je ne vais pas les citer tous, mais il y en a plein qui existent sur le marché et qui peuvent améliorer notamment. Alors ça va améliorer, on va les prescrire quand il y a une altération modérée du sperme. Mmh. Si vous avez un sperme très 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 altéré, il faut pas compter ce que le complément alimentaire va vraiment rendre ce sperme fécondant. Mais alors là, il faudra diriger les personnes vers la fécondation in vitro, l'ICSI, mais aussi l'infertilité féminine, c'est-à-dire toutes les cellules à renouvellement rapide. Donc où il y a besoin d'ADN, il y a besoin de reproduction de matériel génétique, vont avoir cet impact direct des antioxydants. Et notamment l'ovule aussi. Les femmes qui ont de l'infertilité, on peut aussi leur donner des antioxydants. Je vous dis, il y a plein de compléments alimentaires sur le marché. Mais voici les éléments essentiels. C'est la vitamine A, la vitamine E, la vitamine C, le sélénium, le zinc, la L-carnitine pour les hommes, le coenzyme Q10. Voici, c'est essentiellement ce que ça doit contenir.
Hicham Benabastagé, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. Alors, je reviens au cas de grossesse. Quels sont les dangers d'un surdosage en antioxydants?
Alors, il y a
c'est une possibilité
aussi. Tout à fait. Alors, il y a différents antioxydants, comme en même temps, je vous dis, il y a différents ions oxydants. Par exemple, les vitamines A et vitamines E en excès peuvent être tératogènes. Et c'est pour ça que, par exemple, chez la femme enceinte, on ne recommande pas beaucoup.
Ça veut dire ?
C'est-à-dire qu'elles peuvent entraîner des malformations génétiques, justement. C'est ça, tératogène, c'est tératos, c'est monstre. Donc, entraîner des anomalies. Et donc, par exemple, la vitamine A, chez la femme enceinte, on va la déconseiller parce qu'il ne faut pas la prendre à forte dose, par exemple. Donc, généralement, pour la femme enceinte, les compléments alimentaires ne contiennent pas de vitamine A. Bien sûr, il faut pas le corps, notre corps humain, la nature est bien faite. Il faut pas trop d'excès et il faut pas trop de manque. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'alimentation. Une alimentation variée, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, boire beaucoup d'eau. Aussi, c'est important, éviter donc le sucre, les limonades, l'eau, le thé éventuellement, pas trop de caféine. La caféine aussi est bien pour le corps, c'est un bon antioxydant, mais pas trop. Les tanins, je veux dire, un deux cafés par jour, ça fait pas de mal, mais plus, je pense que ça peut irriter. Bon, je suis pas nutritionniste. Les tanins.
J'ai suivi ton regard, de bien. J'ai compris le message.
Les tanins contenus dans les pommes, dans le raisin, les vins, les tanins aussi sont tout ce qu'on appelle les phénols, tout ce qui est avec composés phénoliques. Je ne veux pas rentrer dans la chimie, mais tous les phénols sont d'excellents antioxydants. Il y en a plein. L'essentiel, c'est d'en prendre régulièrement et de manger sainement, je dirais.
Dernière question, Hicham Benabastagé. Qu'en est-il de la ménopause? Est-ce que ce type de traitement est proposé aux femmes ménopausées?
Oui, bien sûr que ça peut être proposé, ça fait que du bien. Vous me donnez l'ouverture sur une autre, encore détaillée, c'est que les antioxydants, ce système de radicaux libres et antioxydants, l'excès de radicaux libres vont avoir un effet sur le vieillissement prématuré, sur l'athérosclérose, sur la glycémie, le diabète, et à la ménopause, on a ça aussi. D'accord? La ménopause, c'est un vieillissement, donc. Plus ou moins prématuré. Et donc, on peut conseiller encore à la femme ménopausée de prendre et de prendre ces aliments, d'avoir une hygiène de vie qui est très importante.
La vitamine E spécialement.
La vitamine E pour la peau, la vitamine D, la vitamine C. Ben, par rapport à, bon, on vient de passer cette pandémie de Covid, qui est encore là, mais qui diminue. La vitamine C, le zinc sont d'excellents antioxydants et qui renforcent l'immunité par rapport à ça. Vous voyez, c'est là leur rôle de compenser, de réduire ces radicaux libres, ces oxydants qui sont là et qui sont naturellement présents, produits, et qui donc c'est les déchets de la cellule qu'il faut nettoyer.
Mais le tout est de trouver justement l'équilibre.
Oui, tout à fait. Mais
que ce soit à travers l'alimentation, donc riche en fruits,
et légumes, boire beaucoup, pas beaucoup de sucre, pas beaucoup de lipides, pas beaucoup de quoi d'autre. C'est ce que je dirais essentiellement.
Merci beaucoup, Hicham El Abestadj.